Bonjour et bienvenue dans le 10e épisode du podcast Café Noir et Table Blanc par le bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et, comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Que vous nous écoutiez depuis la section podcast de notre site lebontraitunion.com ou encore sur Spotify ou YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne rien manquer et nous suivre aussi sur Facebook, mais surtout que vous nous écoutiez dans votre salon ou votre cuisine, c'est aujourd'hui une carte postale gustative que nous vous préparons à vous envoyer, alors tenez-vous prêts. Sujet du jour, cuisine du monde, cuisine des gens. En confinement, alors que nos déplacements sont limités et nos voyages impossibles, nous pouvons compter sur notre assiette pour nous emmener ailleurs, ou peut-être pour mieux connaître nos voisins ou encore renouer avec nos racines. La cuisine porte vers l'autre, sésame vers l'ailleurs. Dans le palais de nos possibles, tous les goûts se nouent et les gorges se dénouent. Mangeons, rions, vivons ensemble. Mes invités du jour sont deux filles pétillantes, deux filles qui ont emporté la chaleur de leur terre natale dans leur sourire. Deux expatriées que j'aime énormément. Je commence par te saluer, Maa, depuis Montréal où tu es actuellement. Toi, tu as créé la caravane gourmande, un service traiteur de cuisine marocaine moderne. Bonjour Maa.
Bonjour Hélène.
J'ai aussi le plaisir de recevoir celle que j'appelle affectueusement ma fille des îles, la belle Johanna qui vient de La Réunion et vit actuellement à Manchester. Bonjour Johanna.
Salut.
Alors sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On jase voyage et fourneau, relations humaines, épices, couleurs, saveurs aujourd'hui. D'abord, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente la cuisine pour vous. Est-ce que ça va pour vous au-delà de l'acte de partager un repas? Je pourrais peut-être commencer avec toi, Maa. Qu'est-ce que ça représente?
Ben écoute, la cuisine pour moi, c'est d'abord c'est mon monde, c'est ce qui me définit. La cuisine, c'est un art. On peut en parler de différentes manières. C'est une leçon de vie. C'est du partage. Des saveurs. C'est du plaisir. C'est du bonheur. Donc, la cuisine, c'est tout ça. C'est savoureux.
Pour toi, Johanna, qu'est-ce que ça représente la cuisine?
Je la rejoins un peu là-dessus, parce que dans ma famille, on dit souvent qu'on aime manger, mais on aime aussi cuisiner. Ben, ma mère, si je pense à la cuisine, je pense tout de suite à ma mère qui se lève tôt pour faire à manger le dimanche, pour qu'on mange en famille, etc. Donc oui, pour moi, c'est plein de souvenirs. Puis aussi, cuisiner, c'est un moyen de montrer son affection pour ses amis ou sa famille, donc ouais.
Dans vos cultures d'origine marocaine et réunionnaise, est-ce que justement c'est important de se retrouver autour de repas, d'avoir un grand groupe, peut-être plus que de manger tout seul ou de manger sur le pouce comme on le voit plus dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada ou peut-être aussi Johanna en Angleterre. Est-ce que de là d'où vous venez dans le fond, c'est important cet acte de s'asseoir ensemble?
Oui, tout à fait. Ben écoute, moi j'ai envie de dire que au Maroc, manger c'est rythme la journée. Manger c'est un événement de tous les instants. Vraiment c'est un happening. On se réveille, on se demande ce qu'on va manger, on commence à préparer ce qu'on va manger. Ensuite on mange, on s'arrête de travailler. On interrompt la journée de travail pour rentrer manger. On rentre de l'école, on fait la collation, le goûter. Manger, c'est vraiment, c'est un événement de tous les instants. C'est ce qui rythme, c'est incroyable.
Puis là, je vois Johanna qui acquiesce avec un sourire immense.
Oui, oui.
Ouais. De ton côté aussi, à La Réunion, c'est important?
Oui, oui, c'est important. Il n'y a que récemment où... Ou quand j'étais à la maison, par exemple, si je travaillais, je m'arrêtais, je mangeais pas avec mes parents et ils mangeaient tous les deux. Mais sinon, de mon plus jeune âge à mes 18 ans, c'était toujours, il y a un moment pour manger le midi, un moment pour manger le soir, mais on est tous ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui mange avant et quelqu'un qui mange après. Non, ma mère faisait la cuisine et on partageait vraiment tous le même repas, etc. Donc c'est vraiment un moment. Puis même avec des amis ou même en famille, il y a l'idée de faire des pique-niques, mais c'est pas juste un petit pique-nique où t'emmènes des sandwichs. Non, t'emmènes la marmite, t'emmènes le repas, tu fais cuire le truc à la plage ou à la montagne ou où tu veux. Tu fais ton barbecue, mais t'emmènes tout avec toi. C'est vraiment
la cuisine nomade.
C'est vraiment comme si tu faisais la cuisine chez toi, mais sauf que tu partages le moment avec d'autres personnes et
Il a les yeux de Ma, vous ne les voyez pas, mais il pétille. Ouais. Oui.
Ouais, justement, tu parlais, Johanna, tu parlais du pique-nique. Effectivement, ça me rappelle de très bons souvenirs de vacances où on allait, quand on allait pique-niquer, c'était un déplacement total de la cuisine en plein air, quoi. Donc, effectivement, c'est ce qui me faisait sourire. Et encore, toujours dans mes souvenirs, pour reprendre l'idée de manger ensemble, je ne sais pas si c'est arrivé, Johanna, mais nous, pour quand on faisait des bêtises et qu'on avait une punition, ben la punition c'était d'aller manger tout seul.
Ah ouais, hein? Oh là là.
On était privés de repas ensemble
en groupe.
À table, ouais.
Ah ouais. Hein.
Donc juste pour dire qu'on n'est pas fait pour manger tout seul, quoi.
Tout seul, ouais, non, c'est ça. Moi, je sais que chez mes parents aussi, il y avait la règle, c'est qu'il n'y a jamais eu de télévision là où on mange. Mm-hmm. Parce que le fait de manger, c'était de se retrouver autour de la table pour se parler. Comment ça va avec l'école, comment ça va le travail, comment ça va en général. Je pense que c'était vraiment un moment aussi, oui, on se nourrit de nourriture, mais on se nourrit aussi des informations du groupe, oui, de l'un, de l'autre. C'est un moment de rencontre.
Exactement, c'est un moment de communion, c'est un moment sacré en fait. C'est, ouais, c'est le moment où on se pose, on échange, on règle nos problèmes, on pose des questions. Quand on a besoin de quelque chose, on a des demandes spéciales à faire, c'est à ce moment-là qu'il faut les faire. Donc, c'est vraiment, ouais. Ouais, c'est sacré. Ouais.
Puis moi, je sais pas vous, mais moi, depuis toute petite, j'aime les soupes. Hein. Mmh. Moi, de tous les pays, dans toutes les cultures. Moi, je suis une fille de soupe. J'aime les soupes le matin, le midi, le soir. J'ai aucun problème. Voilà. Et je pense que j'aime d'autant plus ça que, je sais pas, il y a quelque chose de réconfortant, même quand il fait chaud. Et puis, mes parents ont un jardin. Fait qu'aujourd'hui, quand je rentre chez mes parents, mon plaisir, c'est la soupe aux légumes du jardin. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez un plat emblématique ou quelque chose comme ça qui vient vous chercher?
Un plat emblématique?
Ouais, quelque chose qui fasse partie de... À tous les coups, si on veut le faire plaisir, c'est ce genre de plat qu'on doit faire. Qu'est-ce que ce serait?
J'ai pas de plat emblématique, mais c'est juste la cuisine de maman, en général. Parce qu'il y a des plats qu'elle fait régulièrement et qu'on va manger, où elle me demande « qu'est-ce que tu as envie de manger ?» Mais c'est pas un plat, c'est vraiment sa cuisine. Enfin, parce que c'est les plats qu'elle fait depuis qu'on est tout petit et que... Enfin, elle y met du temps. Le dimanche, elle se lève à 6 heures pour faire la cuisine, pour qu'on mange. Enfin, c'est vraiment des plats, pas juste du... comme ça.
Quoi, par exemple, comme plat? Qu'est-ce que c'est comme plat, par exemple, que vous allez manger?
Ben, on va manger le très, très fameux rougail saucisse ou un carré poulet ou... Enfin... Un bœuf carotte, mais plein de plats. Enfin, ça dépend, mais vraiment, mais...
C'était quoi le pain dont tu nous as parlé la dernière fois, qui était typiquement...
Ah, le macatia.
Réunionnais.
Le macatia, oui. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, on l'achète avec ceux qui savent le faire. Ma mère est plus repas, gros repas, que... Bon, elle fait aussi des gâteaux traditionnels de La Réunion, mais c'est vraiment... ces plats emblématiques.
Alors, je ne sais pas si ta maman nous écoute, mais moi, je peux lui dire qu'il y a un grand, grand sourire sur ton visage.
Ah non, je salive. Je salive.
Chère maman.
Maman,
et toi...
j'ai faim.
et toi, Ma, qu'est-ce que c'est comme plat qui viendrait te chercher ou qu'est-ce qui va peut-être te réconforter en tout temps ou qui serait un plat gagnant pour te faire plaisir?
Ben moi c'est surtout les plats mijotés donc en format tagine. Les tagines donc bon c'est d'abord le récipient dans lequel on va cuire le plat et la recette qui vient avec. Donc les tagines cuits sur un feu de braise pendant des heures et avec des ingrédients en fait qu'on retrouve pas nécessairement ici. Donc je pense au cardon, je pense à l'artichaut sauvage, je pense à voilà des légumes de saison et qu'on trouve pas ici. Donc ça me fait saliver, ça me fait rêver. Quand ma famille m'envoie des photos pour me dire voilà ce qu'on a mangé aujourd'hui, je suis juste dégoûtée quoi.
et justement, comment est-ce que tu t'adaptes et peut-être t'adaptes ces cuisines, parce que là on parlait du fait que avec la caravane gourmande tu proposes de la cuisine marocaine moderne ou de la cuisine fusion, Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Puis est-ce qu'on va quand même avoir ces saveurs marocaines, mais que tu les as adaptées avec ce que tu trouves sur place ici?
Exact, oui, oui, oui. En fait, on s'adapte. Hein. L'être humain s'adapte à tout. Donc, la preuve, on est aujourd'hui. Hein, on arrive à survivre avec tout ce qu'on vit. Donc, on s'adapte, on fait preuve de créativité, on adapte en fait les recettes avec des ingrédients qui s'apparentent. Donc, oui, c'est par exemple, pour reprendre l'exemple du tagine au cardon, ben ici, je le fais à base de céleri.
D'accord.
Et le résultat est étonnant. Est aussi bon, donc ça c'est voilà, c'est intéressant parce que c'est quelque chose à laquelle j'aurais jamais pensé faire si j'étais restée au pays, quoi.
Ouais. Et alors justement là, on parle un petit peu de s'évader, de retrouver des notes, d'aller chercher la cuisine d'ailleurs. Si on parle du duo cuisine et voyage, est-ce que peut-être au cours de vos voyages, au cours de vos différents séjours dans différents pays, est-ce que vous avez aussi incorporé des types de cuisine à ce que vous allez préparer aujourd'hui? Vas-y, Joanna.
Moi, je trouve que dans le pays où je vais, j'essaye de manger comme eux et après, ça devient une habitude. Comme par exemple, quand je suis au Royaume-Uni, je vais manger des baked beans. Le truc que, quand j'étais en France, ça me semblait inimaginable. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'est haricots dans cette sauce de tomate. Et quand je suis ici, mais j'ai toujours cette envie de manger des baked beans. J'en mange souvent. J'ai fait les courses, j'en ai acheté aujourd'hui. Voilà, je dis tout. Quand j'étais en Chine, je me suis mis à manger. Je me suis mis à manger des choses que je pensais pas manger non plus et je me disais mais non mais je vais pas manger ça et puis finalement si. Enfin du coup je trouve que peu importe le pays où je suis, je m'adapte un peu à la nourriture et je goûte et ensuite je me dis ah mais finalement c'est bon et je commence à manger comme.
Tu manges comme un local.
Ouais voilà c'est ça.
Et est-ce que t'emportes un peu cette cuisine avec toi quand tu pars ailleurs ou est-ce que tu le mets dans tes valises ou est-ce que tu la laisses sur place?
Oui, bah, par exemple, je vais essayer de faire goûter ça après quand je rentre chez moi à ma famille. Ma mère n'est pas très réceptive à la cuisine d'autres pays parce que pour elle, c'est la cuisine créole et elle a du mal, enfin, son palais a du mal à s'adapter aux autres cuisines. Donc, j'essaye, bon. Mais oui, j'essaye toujours de trouver des ingrédients que que j'avais quand j'étais en Chine ou au Royaume-Uni ou je sais pas.
En sachant quand même que, petite précision, quand tu dis son palais a du mal à s'adapter, La Réunion, vous êtes quand même confluent de culture avec des tas de cuisines différentes. Donc, quand même.
Non, bah, ma mère, en fait, oui, quand je dis qu'elle aime la cuisine créole, c'est aussi la cuisine chinoise parce qu'on a beaucoup de. Enfin, la cuisine chinoise prend une grande place chez nous. Et donc, si on voyage. Je sais que si on va dans un restaurant chinois, ma mère, ça va aller parce que c'est de la nourriture qu'elle a l'habitude de retrouver et qu'on a changé un peu, on a ajouté un twist quand on le fait à la créole, mais ça reste de la nourriture dont elle est habituée, donc pour elle...
Et toi, Ma, est-ce que tu amènes la cuisine avec toi dans tes valises quand tu voyages et que tu la ramènes à la maison ensuite?
Ouais, toujours. Bah, souvent, en fait, on va dire le plus souvent qu'autrement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des voyages plutôt décevants en termes de culinaire, comme je pense par exemple à Cuba, où à chaque fois que j'y vais, ben, c'est la même déception qui revient, alors que bon, c'est quand même un pays qui est très riche culturellement. Qui a beaucoup à offrir, mais malheureusement en cuisine on revient toujours avec un palais déçu, donc oui, en général effectivement tous mes voyages je reviens avec des nouvelles idées, avec des ingrédients secrets que je vais incorporer à ma cuisine, justement pour ajouter cet élément fusion à ma cuisine. Donc, et je trouve ça magique parce que seule dans ma cuisine, quand je m'y mets, je pense à mon voyage en utilisant cet ingrédient et j'imagine les ingrédients avoir un dialogue entre eux. Je sais pas, c'est très imagé, mais c'est vraiment ce qui se passe dans ma tête. J'ai l'impression que le kombava que j'ai d'ailleurs découvert à l'île de la Réunion, quand je le fais quand je le fais interagir avec un poisson, ben, une sauce un peu marocaine, c'est, y a, voilà, j'ai l'impression que dans le plat, il y a une réunion et qu'ils ont du fun et qu'ils se parlent.
Donc, il y a des heureux mariages dans l'assiette.
Ouais, vraiment, vraiment. Y a de la magie quoi, qui opère. Donc, ouais.
Mais puis c'est drôle, moi je sais que moi ma maman est très très bonne en cuisine française et peut-être pour ça je me suis pas risquée sur ce terrain-là et ma cuisine à moi va aller chercher un petit peu de la révélation vietnamienne que j'avais goûtée là-bas, de la joie mexicaine, ouais. De l'équilibre japonais, de la plénitude italienne. Enfin, moi j'ai grandi dans une famille où bon mais certains de mes grands-parents, trois de mes quatre grands-parents étaient nés en Algérie ou en Tunisie et donc il y avait pour Noël le couscous de mamie. Bah oui, toi c'est mais et en même temps je trouve que c'est magnifique, c'est vrai que c'est très riche comme mélange et ouais. Puis j'aime beaucoup ce que tu disais Ma de dire ah bon si les ingrédients avaient un dialogue mais que pourraient-ils se dire, ils ont une langue universelle qui est celle aussi du plaisir.
exactement et après en fait la surprise c'est quand tu goûtes et tu te dis ça marche.
Et
tu vois,
c'est bon.
C'est vrai, tu te dis ça marche. Ah ouais, c'est un mélange improbable, mais ça marche.
Mais c'est vrai, et puis c'est drôle parce que tu vois, moi j'étais, quand j'étais aux États-Unis, je vivais dans une famille indienne et à un moment donné, la cuisinière avait oublié de faire les petits pains traditionnels indiens et la grand-mère était un petit peu, je dirais, disons frustrée. Et là, je me dis, bon, attends, moi je sais comment faire des arepas à la colombienne, un peu frites. Bon, je vais essayer. Et finalement, ma grand-mère essaye avec évidemment un regard assez dubitatif. Laissez-moi vous dire que la française aux États-Unis lui cuisine dans sa maison indienne des arepas. Pas colombienne. Et finalement, c'était l'approbation, mais comme une mama italienne, quoi. C'était très drôle. Elle approuve, fait que finalement, tout le monde a mangé, puis elle est comme « Non, mais en fait, c'est... Ah non, c'est bon, en fait. Hein, c'est... Ah, c'est... Non, non, ça vaut le... Non, c'est bon, c'est bon. » Puis c'est vrai que, comme tu dis, je pense que cette joie, des fois, de marier des palais qu'on n'attend pas, ça nous fait voyager complètement ailleurs. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est vraiment la magie, quoi.
C'est incroyable, et en même temps, il y a l'idée de la découverte et de faire découvrir à l'autre aussi, donc c'est intéressant.
Puis je sais pas vous, mais moi, quand je lis de la littérature, généralement, c'est teinté par rapport à ce que je mange. Par exemple, si je lis un roman japonais, je vais avoir tendance à boire beaucoup plus de thé vert. Je sais pas, il y a aussi un livre que j'aime beaucoup qui est de Nicolas Bouvier, qui s'appelle L'usage du monde. Et en fait, il part avec son ami suisse jusqu'en Inde. Et tout le temps où il traverse avec sa voiture, je trouve qu'on voyage aussi parce qu'il nous raconte qu'il mange. Bon, parfois que moi, je mangerais peut-être pas forcément, je le reconnais. Mais... on voyage vraiment, je trouve, avec cet imaginaire des papilles. Est-ce que vous, ça vous arrive aussi de vous plonger dans des littératures ou peut-être des ouvrages qui vous emmènent juste à vous faire saliver?
Ben, peut-être pas de cette façon, mais moi, quand il m'arrive justement de lire des passages où on va décrire une espèce de nostalgie par rapport à un plat et où c'est très 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 bien décrit, où c'est bien écrit, c'est, on imagine le plat, on le sent, on le visualise, et c'est ça que je trouve de très beau justement quand la cuisine est décrite à travers la littérature. Je trouve ça vraiment poétique. Donc c'est peut-être pas l'envie en fait de manger le thème culinaire de ce que on est en train de lire, mais c'est le fait de fermer les yeux et de pouvoir visualiser que quelque chose que tu n'as même jamais goûté.
Ouais. Donc, le pouvoir de l'imagination est.
Ouais.
Et toi, Johanna, parce que là, j'ai l'impression que t'as faim depuis qu'on a commencé ce podcast.
Ouais, c'est ça. On lui a donné faim.
Elle balance. Non, moi, je suis plus très visuelle, donc j'ai pas de souvenir d'avoir lu quelque chose qui m'ait donné faim. Et par exemple, je regarde beaucoup de séries coréennes ou de shows en général. Et la nourriture prend une grande place aussi, je pense, dans la culture coréenne. Et avant même d'aller en Corée ou de goûter de la nourriture coréenne, j'avais cette envie de manger ce qu'ils mangeaient. Alors, je ne savais pas du tout quel goût ça avait, je savais pas. Mais la façon dont ils le mangent, ça a l'air tellement bon que je regardais ça et j'avais qu'une envie, c'était trouver un restaurant coréen pour goûter et enfin savoir pourquoi est-ce que tout le monde commande toujours ce plat dans toutes les séries que je regarde.
Mais alors justement, j'aime ça parce que là, on parle aussi de cette ouverture et tu as un petit peu touché du doigt la thématique, Maa, cette idée de cuisine et d'intégration, le fait que bah, quand on cuisine et qu'on offre à quelqu'un d'autre sa cuisine, c'est de partager un peu de soi, faire découvrir un terrain inconnu, alors que ce soit le potluck, la fête des voisins ou par des séries ou quoi. Est-ce que pour vous, la cuisine, ça rime vraiment avec intégration ?
Oui, moi, en fait, j'ai envie de dire que c'était vraiment l'arme fatale, mon moyen d'intégration quand je suis arrivée ici. Il y a une vingtaine d'années, j'ai débarqué toute seule pour poursuivre mes études. Et donc, justement, pour éviter la solitude, mon seul moyen en fait de socialiser, c'était de faire des bonnes grosses bouffes, d'inviter des gens que je connaissais pas forcément, que je venais de connaître, et puis je les invitais, je leur disais ok, it's all on me, j'invite, je vous fais à manger, vous occupez, je sais pas moi, des boissons, des napkins, des ustensiles, mais c'est moi qui régale. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me constituer un groupe d'amis. Donc, à la base, pour moi, c'est le moyen d'intégration par excellence. C'est comme ça que j'y suis arrivée, en tout cas.
Et toi, Johanna, est-ce que, comme Maa, tu t'es passée par la cuisine pour aller peut-être amadouer ou t'intégrer dans les sociétés où tu allais?
Peut-être pas cuisiner, mais le fait d'en parler... Parce que quand j'étais au Japon et que je parlais avec des gens que je connaissais pas très bien, que je venais de rencontrer, si on parlait de nourriture, je parlais de ce qu'on mangeait à la Réunion. Et parfois, eux, comme il y a beaucoup de choses qui sont aussi typiques, enfin qu'on peut retrouver en Asie, dans ce qu'on mange, nous, à la Réunion, si c'est des fruits ou des légumes. Et donc, je parlais de ça et eux, ils se retrouvaient, ils disaient « Ah mais oui, je sais ce que c'est ça !» Et puis après... Le dialogue se construisait comme ça et je pense que c'est comme ça que je me suis fait des amis plusieurs fois. Donc,
la cuisine comme catalyseur.
C'est ça,
la cuisine qui fait tomber les frontières et, et qui intègre. C'est drôle parce que quand on est allé en Équateur voir Cheryl, justement, Mario était absolument décidé à faire son pâté chinois. Et donc, leur faire goûter. Donc, on est à Quito, en Équateur. On est dans la maison où on est. Il n'y a pas de four. Donc, on va dans une maison à côté que notre hôte de Airbnb garde. Là, on se retrouve à cuisiner. Bon, fait imprévu, le propriétaire de la dite maison rentre. Devant son effroi, je lui dis « Bon, c'est pas grave. C'est super, vous avez une belle maison. Est-ce que vous allez vous joindre à nous pour le souper ?» Oui. Donc là, il faut imaginer la procession d'une maison à l'autre. On était 5-6 personnes devant... Le pâté chinois devant, la maman de Cheryl qui nous rejoint après, avec un vin argentin en Équateur. Bref, et la maman de Cheryl et notre hôte qui avait aussi pris des cours de cuisine commençaient à dire « Ah oui, alors il est bon ton pâté chinois, peut-être qu'avec la carne mechada, oui, puis ici, moi je mettrais un peu de ça. » Alors laissez-moi vous dire que le pâté chinois québécois est parti en Équateur, je ne sais pas à quoi il va ressembler, mais le mythe est parti.
Mario est parlait avec une nouvelle recette de pâté chinois.
Ah non, c'est ça, écoute, absolument. Puis on en fait des blagues encore aujourd'hui, mais la maman de Cheryl, qui est une toute petite madame, elle est comme oui, moi je ferais avec ça. Moi je mettrais ça, puis plus de ça. Ah oui, un petit peu d'oignon. Ah oui. Mais c'est vrai que c'était drôle parce que justement, encore une fois, on voit bien qu'autour d'une recette, on y apporte ce que chacun aime de sa propre cuisine pour constituer un nouveau plat, puis ça devient une nouvelle richesse en quelque sorte.
Exactement.
Puis quand tu disais cuisine fusion, c'est ça aussi un petit peu... Alors, je ne sais pas si tu as déjà fait une poutine tagine, mais...
Non. Alors ça, par contre, pour moi et pour mes enfants surtout, la poutine, c'est un plat sacré. Donc,
J'adore.
Je ne m'aventurerai jamais à revisiter ce plat. Donc, je laisse aux connaisseurs continuer dans leur lancée, mais pas, non, moi, je ne toucherai pas à la poutine. Par contre, j'ai recréé le grilled cheese.
Ah.
Donc, j'ai mon grilled cheese qui est décadent. Et ça, par contre, je m'en suis donné à cœur joie.
Et alors, est-ce qu'on peut te demander qu'est-ce que tu as mis dans ton grilled cheese, par exemple?
C'est vraiment la fusion entre mes deux cultures aujourd'hui. Donc, c'est le fameux fromage cheddar, un bon petit pain au grain, ou en tout cas le pain de votre choix, et que j'accompagne avec une compotée d'oignons et de raisins caramélisés à la cannelle. Et non, c'est décadent, c'est juste.
Moi, voilà. Je pense qu'après ce podcast, on devrait se faire un petit échange de recettes. Ouais, hein. Puis, ouais. Johanna, tu n'as plus qu'à venir nous rejoindre à Montréal. Ouais. Quand ce sera possible de voyager à nouveau, on s'arrange, on se fait une bouffe.
Ah ouais, ça oui, devrait être sympa. C'est une grosse fiesta, ouais. Avec les plats de chacun.
Exact. Et pour le visuel, là, tu peux toujours aller consulter mon site et tu verras, il y a une belle photo de mon grilled cheese.
Ah là 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 là. Puis, mais c'est drôle parce que je vous écoute parler, puis c'est vrai qu'on est trois expatriés, trois femmes qui vivent pas sur la terre qui nous a vu naître, et justement j'ai l'impression que ce lien cuisine racine et en même temps cuisine et nouvelle maison en quelque sorte, ça se marie très bien. Alors c'est drôle, c'est comme si on constituait peut-être des nouvelles Madeleine de Proust en quelque sorte. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai vécu au Québec quand même pas mal de temps, puis je suis repartie, puis je suis revenue, puis je suis repartie. Puis par exemple, tu parlais de la poutine qui était sacrée. Moi, j'avoue que certaines fois, même en France ou aux États-Unis, bon, c'est vrai que je me serais bien mangé une bonne poutine. C'est comme si ça faisait d'un coup partie de mon nouveau répertoire culinaire, de mes nouvelles racines en quelque sorte.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous avez ça aussi? Alors, la poutine, on l'a compris, mais toi aussi à la maison. Mais est-ce qu'il y a des choses d'ici, par exemple, que tu as appris à apprécier ou que tu as découvert et rentré dans ton propre, je dirais, coup de cœur culinaire?
Ben, le grilled cheese. Sérieusement, le grilled cheese, moi, je ne connaissais pas avant.
J'adore.
Je ne connaissais pas avant. Il y a le mac and cheese aussi, mais ça, c'est plus pour les enfants. Moi, j'apprécie moins. Mais les enfants me le réclament, donc effectivement c'est quelque chose qu'on a adopté, que je sers bizarrement, mais que je sers aux fêtes des enfants parce que c'est ce qu'ils veulent. Mais le grilled cheese, moi je trouve ça c'est savoureux, c'est gourmand, et puis c'est versatile. Tu peux jouer avec quoi, tu peux mettre ce que tu veux dedans.
C'est vrai, tu peux l'adapter aussi à toutes les saisons, ouais, et puis on parlait de pique-nique, mais c'est assez facile, puis j'ai l'impression, je sais pas Johanna, je vais voir aussi avec ce que toi tu as intégré, tes nouvelles Madeleine de Proust, mais j'ai l'impression que c'est aussi beaucoup de cuisine qu'on peut faire soi-même. On parle pas ici de pièces montées, de choses comme ça, mais quelque chose de simple, de bon.
Exact. J'ai pensé aussi à la salade César, qui est simple, rapide, bonne, et puis voilà... Donc, mais non, voilà, je veux pas te couper, Johanna, vas-y.
Bon, Johanna est très tranquille. Johanna, on parle de nourriture, elle est sur un petit nuage de plénitude.
Ouais, non, je dis, alors, qu'est-ce que je vais cuisiner? Quoi? Mac and cheese? Ça donne des idées. Non, mais oui, quand j'essaie de reproduire des choses que j'ai déjà mangées, oui, c'est souvent des choses qui sont simples. Enfin, simple, mais après, quand tu le fais, tu te rends compte qu'il y a un petit quelque chose. J'arrive rarement à retrouver exactement le même goût, mais d'avoir quelque chose qui s'en rapproche. Par exemple, je mange beaucoup de cuisine coréenne maintenant, et quand j'ai envie de me rappeler de ce séjour où j'étais avec mon amie et où elle me faisait visiter, etc., je fais des trucs simples, un peu de la street food. Et c'est devenu, je sais pas, quand j'en mange, ça me rappelle ces moments-là, et puis ça me rappelle le pays. Je me dis, ah, ça serait bien d'y retourner.
Et du coup, est-ce que t'appelles ton ami aussi? Non, parce que bon, c'est bien de manger tout seul dans son coin, mais on l'a dit, hein.
Ouais, non, souvent je lui envoie des... Parce que la dernière fois, j'avais envie de manger du kimchi. Et je lui dis, bon, écoute, Yojin, j'ai envie de manger du kimchi, mais je ne peux pas sortir en acheter, je vais essayer d'en faire. Et elle me dit, mais même moi, je n'ai jamais essayé d'en faire. Qu'est-ce que tu me racontes?
Ouais, c'est vrai que la fermentation, c'est compliqué.
C'est pour la prochaine étape. Non, mais Johanna, ne désespère pas, c'est la prochaine étape.
Non, mais puis après, quand je regarde la recette et que je vois... comment c'est... Enfin, il faut s'appliquer. Je me dis, bon, non, on va... Je mangerai quand je sortirai, allez.
Mais c'est drôle, mais Mais en même temps, je trouve que tu touches là un autre point important de la cuisine qui est d'apprendre. Puis là, on a appris, on a discuté justement d'apprendre à découvrir l'autre, d'apprendre à découvrir des nouvelles notes, des nouvelles saveurs. Mais c'est vrai, puis notamment toi, Maë, qui a des enfants, c'est aussi d'apprendre à prendre des bonnes habitudes alimentaires, à manger, à faire sa cuisine, à savoir ce que tu mets dans ton assiette. C'est aussi d'apprendre des fois à compter les proportions, etc. Donc, à peu près à tous les âges, on peut rentrer dans le monde de la cuisine puis apprendre tout un tas de choses.
Exactement.
Moi, c'est peut-être ce qui vient me chercher. Je pense que c'est un des domaines où le fait d'apprendre peut ne jamais s'arrêter, en quelque sorte.
Exactement. C'est vrai que la cuisine, on va dire, introduite aux enfants, ça reste une activité éducative d'abord et avant tout. Donc, ça passe par toucher les textures, apprendre à la dextérité, apprendre à ne pas avoir peur de ce qui est des textures. Les œufs, c'est gluant, pétrir une pâte, ça défoule, ça aide à centrer l'enfant. Donc il y a ça, il y a le côté éducatif et aussi le côté éducatif nutritionnel dans l'assiette. Donc moi je disais quand ils étaient plus jeunes, je leur disais: il faut tout manger. On a droit à un seul aliment sucré et salé qu'on a le droit de ne pas aimer. Donc, tout le reste, donc, vous choisissez. Il n'y a pas de « j'aime pas les champignons, j'aime pas les bananes, j'aime pas la carotte et j'aime pas le petit pois ». Non, tu as droit à un et tu fais un effort. Donc,
un que tu n'aimes pas, mais l'autre, les autres, tu dois les intégrer.
Oui, il faut, voilà. Parce que sinon, on se retrouve à manger des patates et des pommes de terre et des carottes à longueur de journée et ce n'est pas possible. Donc, il y a cette notion. Il y a la notion aussi nutritionnelle. Qu'est-ce qu'apporte une carotte versus une mandarine versus un haricot vert? Pourquoi on garde les pelures d'une pomme de terre alors que le commun des mortels va l'éplucher? Donc, c'est un apprentissage et c'est un dialogue, encore une fois.
Puis c'est aussi beaucoup d'autonomie, je pense, parce que on est toutes parties assez jeunes de nos maisons, je dirais de nos foyers, de chez papa, maman. Et forcément, si on veut manger, pas forcément que des boîtes ou que on est étudiant, qu'on n'a pas le budget de manger au resto tous les jours non plus.
Ouais, bien sûr.
C'est important de savoir faire son assiette, en quelque sorte.
Se débrouiller, tout à fait. Ouais.
Puis toi, Johanna, est-ce que t'avais vu ça aussi un peu, peut-être de... Bon, ta maman, on l'a compris, c'est elle qui va se lever à 6h du matin. J'ai comme l'impression que toi, pas autant. Mais...
Attends. Mais... non, je vais jamais me lever à 6h du matin pour faire la cuisine. Mais,
confession.
S'il y a un repas que j'ai envie de faire, et généralement, c'est la cuisine de la réunion, ça prend du temps, il faut laisser mijoter, il faut faire cuire un aliment, attendre, faire cuire un autre... Si j'ai envie de le manger, oui, je vais le faire. Je vais passer le temps qu'il faut dans la cuisine. Et puis, j'apprenais. Il y a des choses que j'ai réussies, d'autres que je n'ai pas réussies. Mais après, je demandais à maman, j'appelle, j'envoie un message. « Maman, j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas le même goût que le tien. Pourquoi ? Peux-tu m'expliquer ?»
Mais, le docteur de la cuisine, c'est maman.
C'est ça.
Et les filles, le temps file, mais ça a été vraiment très plaisant. Je vous remercie énormément. Donc, Johanna depuis Manchester, Maë depuis Montréal, vous m'avez fait rêver, voyager, saliver. Moi, je vous le dis tout de suite, je quitte mon micro et dans un instant, j'enfile mon tablier, c'est certain. J'aime la cuisine réjouissante, la cuisine passeport et je crois en son pouvoir pour nourrir le corps, le cœur et même l'esprit. J'ai vu fleurir des apprentis cuisiniers sur mes réseaux sociaux, comme tout le monde en ce moment, j'imagine. Et j'ai un petit pincement quand moi-même, je n'ai pas le temps de faire du pain ou de tester ci ou ça. Mais je m'en nourris quand même parce que rien qu'à les voir, moi, la mélusine de la cuisine avec mes épices que je collectionne comme des ingrédients magiques, eh bien, je célèbre cet envol culinaire qui, pour moi, tient autant de la nostalgie que de l'émancipation. C'est la cuisine du monde, la cuisine du vrai monde qu'on a essayé de vous insuffler par béquet, par boucher, par pincée dans ce podcast et j'espère qu'on vous aura ouvert l'appétit sur le monde et ses habitants. Alors, où partons-nous, chers auditeurs convives, dans quelle destination d'assiette nous lançons-nous? En fait, peu importe, car l'important, c'est que nous partions ensemble, les amis. Alors encore une fois, Maë, merci énormément. Johanna, merci aussi beaucoup. Vous m'avez fait rêver, voyager, j'adore. Merci beaucoup les filles.
Merci Hélène.
Alors, comment nous suivre pour nos prochains épisodes? Eh bien, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi le site internet de lebontradunion.com pour toutes nos mises à jour et récentes publications. Café Noir et Table Blanc est sur Spotify et sur YouTube avec nos autres vidéos de voyage. Et pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. J'en profite pour vous dire que si Ma vous a donné envie ou des idées, n'hésitez pas à aller voir son site, La Caravane Gourmande. On va mettre tout ça dans les notes. Et puis, comme je dis toujours, eh bien, à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous.
Okinakiga akiretaru hana o sakaseru zutto mae ni